Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui Sarah Salman, avec Didier Giraud, avec Bruno Poncé, des Grandes Gueules qui sont avec vous en direct jusqu'à midi. On vous attend au 32-16 bien sûr pour discuter, pour débattre avec les GG. On va revenir maintenant sur ces histoires de bassines, de méga bassines qui ont valu les affrontements du côté de Sainte-Soline. Et ça intervient, cette polémique, au moment où le président de la République présente son plan eau. Alors, ces méga-bassines sont-elles vraiment un désastre écologique, oui ou non? 32-16 pour en discuter avec les GG, on écoute le chef de l'État.
RMC, les Grandes Gueules.
Concernant les nouveaux ouvrages, parce qu'il y a des endroits où il faut des nouveaux ouvrages, le cadre doit être très clair. Il ne s'agit pas de privatiser l'eau ou de permettre à certains de se l'accaparer. La règle, c'est bien le partage entre les différents usages, entre les agriculteurs, avec parfois d'autres usages qui peuvent être touristiques, qui peuvent être pour justement les habitants de la commune. Et donc, les nouvelles retenues devront donc être d'abord inscrites dans des projets de territoire concertés. Deuxièmement, avoir plusieurs usages. Par exemple, rendre clairement des services à la biodiversité. Puis troisièmement, ces retenues doivent être conditionnées à des changements de pratiques significatifs et individualisés, notamment des économies d'eau, la réduction de pesticides et donc des schémas de transition agricole.
Alors, ces méga-bassines sont-elles une solution pour la sécheresse? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec vous dans les GG.
Oui, alors donc Emmanuel Macron, il a répondu qu'il était pour les méga-bassines, mais à condition que ça respecte certains critères écologiques et tout ça, on l'a entendu. Il a quand même dénoncé aussi ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Il a dit que ce sont des milliers de gens qui étaient venus pour faire la guerre. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Alors du coup, comme on a Didier Giraud, qu'on n'avait pas entendu sur ce sujet cette semaine, ça a été un peu le sujet polémique de la semaine, à la fois parce qu'il y a eu beaucoup de violence à Sainte-Soline, mais aussi parce qu'on se pose la question, est-ce que oui ou non, les agriculteurs ont besoin de ces méga-bassines et est-ce que ça ne va pas se faire au détriment d'autres besoins?
Didier.
Alors moi je suis pas qualifié pour dire si dans tel ou tel territoire on peut faire une réserve collinaire. Déjà le fait que vous répétiez le terme méga bassine à longueur d'antenne, à longueur de journée, déjà ça envoie un message comme quoi c'est néfaste. Oui. Quoi.
Ta bassine,
et je trouve que ce terme méga bassine qui a été créé par les écolos, parce oui. que on va appeler un chat, hein, c'est les opposants à ces projets-là qui l'ont appelé méga bassine. Le fait que ça se répète en boucle sur les antennes méga bassine,
t'as pas tort.
Ça t'envoie déjà un signe comme quoi
c'est péjoratif.
Bah on est oui. déjà dans l'industriel, on est déjà dans le truc qui est dégueulasse pour la nature.
Tu appelles ça comment toi, des réserves d'eau?
C'est une réserve collinaire.
Voilà.
Ou une retenue, ou tu peux trouver un autre terme qui t'envoie à une image différente que méga bassine. Voilà. Ça je voulais le dire. Après derrière ça, ces territoires.
Donc il faut choisir le terme des agriculteurs et
non,
pas le terme des écologistes.
Non, en fait, c'est pas le terme des agriculteurs, mais je trouve. Voilà, c'est une remarque, parce que je trouve quand même que ça donne un signe négatif rien qu'à l'utilisation.
C'est comme
c'est un terme qui rentrait dans toutes les bouches de journalistes depuis une semaine.
C'est un peu comme les violences policières.
C'est les violences policières. Ouais,
les violences policières, c'est un terme qui a été inventé déjà, par ceux qui dénoncent les flics. Ouais, bah,
tu dis ça comment alors? Tu dis des caresses?
Non, tu dis des violences commises par les policiers. C'est pas tout à fait la même chose.
Tu peux même dire par les policiers déviants.
Ouais, voilà. Bon, alors vas-y, continue.
Non, mais après, c'est territoire par territoire qu'il faut que ça s'analyse. Et à un moment donné, quant à ce qui est en image derrière Alain, quant à ce qui est à Sainte-Soline, il y a 15 ans de travail. Il y a 15 ans de travail de la police de l'eau, de syndicats d'aménagement, de gens qui ont besoin d'eau et qui étudient le territoire et l'hydrographie pour savoir comment et quand la prélever et comment et quand la rendre, quoi. Parce que ces retenues, elles servent aussi à réguler un étiage pour l'été, quoi. Hein. On croit que elle va à 100% à l'agriculture, cette eau-là. Mais c'est faux, quoi. L'eau qu'il y a dans les réserves collinaires, elle va, alors, en partie, en grande partie, tu le dis comme tu veux, mais ça peut varier de l'un à l'autre. Je me rappelle de Sivens, par exemple. à Sivens, ce qui n'a pas eu lieu, hein, parce que Sivens, alors qu'il y avait 20 ans de travail derrière pour arriver à rendre de l'eau à 200 agriculteurs, on en est arrivé à ce qu'il se fasse rien du tout.
Il y a un gamin qui est mort là-bas quand même.
Mais il s'est fait rien du tout, quoi. Enfin, à un moment donné, moi, c'est simple, hein, le truc, je vous le pose sur la table, amis consommateurs. Il y a deux solutions. Soit vous voulez continuer à bouffer et vous nous cassez les bonbons sur l'indépendance alimentaire et auquel cas, vous nous donnez les moyens de vous donner à bouffer. Soit vous bouffez du poulet javelisé du Brésil et puis du soja qui vient d'Amérique du Sud ou de la forêt amazonienne, quoi.
Oui, mais voilà. Saint-Amand, Didier.
Le débat, il est là.
Non, le débat. On voit bien, il est très technique. Il y a ceux qui disent
complètement.
Attends, ils disent que mettre en réserve. Il y a certains qui disent qu'une méga bassine ou une réserve d'eau, c'est simplement mettre en réserve le surplus d'eau des nappes phréatiques d'hiver.
Pour l'été.
Voilà. Et il se trouve que cette année, ça n'a pas rempli.
Voilà, et cette année, ça n'a pas rempli parce que
c'est cette année, Olivier.
Voilà, bien sûr. Et puis les opposants aux méga bassines, du coup, parce qu'ils appellent ça méga bassine, disent qu'il s'agit de pomper dans les nappes. Et en fait, le débat, il est là.
Oui.
Et j'ai entendu la géographe Sylvie Brunel. Qui est quand même quelqu'un qui est une des plus grandes géographes françaises, qui est, elle, plutôt pour les bassines, et qui dit qu'effectivement, il faut pouvoir disposer, lors des étés qui sont de plus en plus chauds, de cette eau perdue en hiver, parce que si on l'utilise pas, c'est de l'eau perdue, et donc c'est juste anticipé.
C'est exactement ça, et quand tu pompes dans les nappes, parce que, en gros, tu peux pas collecter, enfin, quand la topographie est plate, tu peux pas collecter un bassin versant. Donc, tu pompes dans la nappe, en effet, tu pompes dans la nappe, mais tu pompes dans la nappe la quantité de ce qui tombe.
Le surplus.
Si ça tombe pas, tu pompes pas dans la nappe. Et tu pompes dans la nappe, s'il tombe 30 mm sur un territoire, et ben tu pompes le nombre de litres d'eau qui correspondent aux 30 mm du territoire. Et la régulation de ça doit être irréprochable, parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont instrumentalisés. Et la vérité d'un territoire n'est pas la vérité d'un territoire à côté.
Et sans eau, pas d'agriculture, il faut le rappeler.
Sans eau, pas d'agriculture. Alors, moi, j'entends qu'il faut aller vers la transition du modèle agricole.
On peut utiliser d'eau.
Alors, moi, j'entends, et je pense que les agriculteurs y sont engagés. Je rappelle quand même que mes vaches mange 80% d'une alimentation qui n'est pas consommable par l'être humain, quoi. Enfin, faut le rappeler quand même.
Alors,
on peut me dire qu'il faut plus de viande. Ça, je veux bien l'entendre, mais mes vaches, elles mangent 80% de ce qu'elles mangent.
C'est-à-dire,
l'homme ne peut pas le manger.
Est-ce que je peux développer le propos pour les gens comme moi, s'il te plaît?
Ça veut dire que il faut faire pousser de l'herbe pour qu'elle soit transformée en protéines par mes vaches, quoi. Et en aucun cas, tu vas pouvoir te substituer des vaches et manger l'herbe qui pousse, quoi. Enfin, c'est là que je veux aller. Et après, derrière ça, sur l'utilisation de l'eau, dans ce qu'a dit le président dans les 130 mesures, il y a aussi quelques bonnes choses, des choses que je dis depuis très longtemps ici, c'est la réutilisation des eaux usées, quoi.
Ça,
parce que quand on parle d'irrigation agricole, c'est quand même invraisemblable qu'en France, on soit moins de 1% d'utilisation des eaux usées. Quoi,
très en retard.
T'as des pays en Israël, ça monte à
40-50%.
En Espagne, on est plutôt autour de 12-13%. Ouais. Et je trouve que cette transformation de l'agriculture, elle est obligatoire. Peut-être qu'il y a des zones en France où il ne vaut plus faire de maïs.
Oui, mais
ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai choix de société, quoi.
L'une des critiques qui dit justement, même si c'est l'eau qui tombe et qu'ensuite on la pompe, du contraire, faut la laisser naviguer, faut la laisser aller dans les sols, faut la laisser faire son trajet naturel, parce que au fil de son trajet, elle entretient les terres, il y a tout aussi une biologie qui est là, un environnement qui a besoin de cette eau, et on la lui enlève. Qu'est-ce que tu réponds?
Non, mais je réponds, allez voir dans des pays où la pluviométrie est de 100 mm par an, quoi. Ces mecs là, ils ont une agriculture, hein. Bah sauf qu'ils se sont organisés pour avoir
une agriculture. Ils font du goutte à goutte aussi, par exemple.
Au sud de l'Espagne, une goutte d'eau qui tombe, elle est récupérée, hein. En Andalousie, une goutte d'eau qui tombe, elle est récupérée systématiquement. Et derrière ça,
on laisse couler, on ne perd pas, quoi.
Ils n'ont pas les mêmes sols, ils n'ont pas le même climat et autres.
On vivait dans un monde d'opulence par rapport à l'eau. Voilà. Et on est en train de passer sur un monde de restrictions. Donc, à nous de nous adapter.
Oui.
Alors, à la fois dans les modèles agricoles, mais aussi dans ne pas perdre la ressource, quoi. Hein.
Et les écologistes, en fait, prônent une agriculture qui ne peut pas fonctionner.
Bah, une agriculture
qui ne nourrit pas tout le monde.
Qui nourrit 25 millions de personnes en France, quoi.
D'ailleurs, le député européen, tu le connais bien, là, qui est en première ligne.
Bruno Guitaut.
Bon. D'aucuns disent qu'il ne vit pas de son exploitation agricole, il vit de ses émoluments de député européen parce que son modèle n'est pas rentable.
Ben oui, oui, on peut le dire, oui.
Alors attends, on va écouter Valentin qui nous appelle de Loire-Atlantique.
Sur le Larzac, qui vivait pas de ses moutons non plus.
Mais non, bien sûr.
Valentin qui est maraîcher. Bonjour Valentin.
Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Alors,
bonjour.
Et qu'en dites-vous, vous, Valentin, alors? Est-ce qu'on a besoin de ces retenues d'eau?
Oui, alors moi j'en suis même équipé. Bonjour, chers collègues agriculteurs. Moi je suis maraîcher en Loire-Atlantique. Et en fait, ces retenues, on en a besoin pour pouvoir garantir de la production alimentaire. Parce que il faut pas oublier qu'aujourd'hui on importe. Alors moi, je connais plutôt la partie fruits et légumes. On importe aujourd'hui quand même 50% de nos fruits et légumes venant de pays qui n'ont absolument pas les mêmes préoccupations environnementales que celles qui nous occupent. Ce qu'on oublie de dire aussi régulièrement, c'est que ces retenues d'eau, alors qui ne sont pas des retenues collinaires. La retenue collinaire, c'est plus ou moins un barrage.
C'est que du ruissellement, ouais.
Voilà, c'est un barrage qu'on fait sur une rivière. Je caricature. Là, on parle vraiment de retenue. On vient pomper un endroit pour la stocker quelque part. Toute l'eau qu'on utilise en agriculture, on ne le dit pas souvent, mais on paye chaque mètre cube qu'on utilise. Chez moi, par exemple, j'ai une serre pour produire des tomates, des concombres, des poivrons, des aubergines. Tout ça en agriculture bio. Je récupère 100% de mes eaux de pluie et 100% de l'irrigation que je fais chez moi, je le fais avec de l'eau de récupération d'eau de pluie. Toute l'eau que j'utilise, je la paye.
Y compris la vôtre, quoi.
Voilà, y compris, oui, et du coup, ces taxes qu'on paye, on paye aussi pour l'entretien des réseaux du particulier. Et contrairement à ce qu'a dit Monsieur Mélenchon, je crois sur vos antennes où tout le monde se fout de l'eau. Alors peut-être Monsieur Mélenchon, oui. Nous, en tout cas en production, c'est absolument pas vrai. Et le goutte à goutte, j'en ai entendu parler il y a quelques minutes là sur votre antenne. On en utilise énormément en France, ouais, notamment en production légumière. C'est tout à fait démocratisé. Les économies d'eau, on en fait aussi. Par contre, une plante, c'est 80, 90, 95% d'eau. Même si on change en partie nos modèles, même si on travaille sur des cultures moins gourmandes, un légume, il faudra de l'eau. Ça n'existe pas.
Un légume, c'est 80% d'eau.
Ah oui. Minimum. Donc, de toute façon, on ne pourra pas donner de l'alimentation à nos concitoyens. Sans eau, ce n'est pas possible. C'est même pas envisageable.
Valentin, est-ce que vous utilisez
le rappeler.
La réserve que vous utilisez, Valentin, c'est une réserve individuelle, vous est propre.
Alors moi, dans mon cas, c'est une réserve individuelle parce qu'elle est pas.
Donc, ce qu'il faut expliquer aussi
pour mes besoins personnels.
Ce qu'il faut expliquer aussi à nos auditeurs, c'est que ce qu'a Valentin, c'est-à-dire une réserve privée et individuelle, il y a personne qui va aller s'opposer à ça et il y en a plein en France. Sainte-Soline, c'est exactement la même chose, sauf que c'est coopératif, quoi. Donc du coup, la taille est différente, mais c'est juste un outil coopératif.
Il y a un peu un truc idéologique, voilà, parce que j'entends beaucoup, l'eau appartient à tout le monde, on veut pas privatiser l'eau. Moi, je pense que ceux qui disent ça, il y a un côté Lénine est de retour, c'est-à-dire on veut que tout soit collectif.
C'est la même mouvance.
On veut que tout soit collectif, et donc un jour on viendra chez toi. Mais... Ah non, alors la douche, là, vous êtes en train de prendre une douche, mais attendez, cette eau nous appartient, elle appartient à tout le monde.
Peut-être qu'il y a une différence, Valentin, entre vous qui êtes très local sur une petite, je sais pas quelle est la taille de votre exploitation, une petite exploitation, et là-bas du côté de Sainte-Soline où effectivement c'est coopératif, mais on dit que ce sont d'immenses exploitations qui sont sur de l'agriculture intensive. On peut peut-être différencier, Valentin.
Alors moi justement, je suis pas d'accord avec ça. Je vois pas pourquoi on viendrait différencier. Ce sont d'immenses exploitations. C'est quoi le ratio de surface? On va en Ukraine, on a des exploitations qui font 2000 hectares. En Russie, c'est pareil, 2000, 3000 hectares. En France, la moyenne d'exploitation, si je dis pas de bêtises, elle tourne autour de 260 hectares. Quand bien même ce sera des exploitations de 300 hectares, faut pas oublier que nous, agriculteurs, on est là pour nourrir les gens. Les gens qui viennent se battre à Sainte-Soline, c'est des gens qui viennent en partie de l'étranger. Les soulèvements de la terre, il faut venir des gens de l'étranger pour venir nous donner des leçons en France, venant de pays qui sont pas capables de respecter la moitié des réglementations qu'on nous impose en France.
Ouais, mais Valentin, je voulais vous poser des questions parce que moi j'entends ce que vous dites. Alors juste pour Mélenchon, moi je suis pas son plus grand premier fan, tout le monde le sait, mais il a fait un meeting pendant la campagne que sur le thème de l'eau. C'est un des rares politiciens, qui avait fait quelque chose là-dessus. Donc le Mélenchon, il s'en fout pas. Après, moi j'ai un truc.
Ah, il s'en fout pas depuis pas très longtemps.
Mais non, ça fait quelques années. Non, mais réellement. Après, bon, c'est pas chacun.
C'est pas forcément d'accord.
Voilà. Voilà. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que moi l'histoire des méga bassines, j'arrive pas à comprendre l'intérêt de ce genre de truc pour deux raisons. Déjà, quand vous faites une bassine et que l'eau elle est comme ça, il y a de la perdition parce qu'évidemment elle va s'évaporer. Et le fait qu'elle est stagnante, il y a des bactéries qui arrivent. Ça, tout le monde l'a reconnu et donc je vois pas l'intérêt. Et moi, quand j'étais gamin, il y avait un truc qui existait qui s'appelait le château d'eau. À l'entrée de toutes les villes et villages de France, il y en avait même plusieurs dans les villes. Et derrière, vous pouviez stocker votre flotte là-dedans et après les gens pouvaient aller la chercher. Moi, je ne comprends pas l'intérêt de faire des méga bassines. Hein. Ouais, mais c'est pour ça. Mais le château d'eau, c'est quelque chose où l'eau s'évapore pas parce qu'elle est, c'est fermé.
Y a
tout.
Ça.
Et moi, je comprends pas.
Les bactéries,
pas.
C'est le même problème.
Oui, mais, moi, oui, mais après, si les bactéries, t'arrives à les traiter par un produit pour que ton eau soit
pareil dans une bassine.
Oui, mais sauf que là, l'évaporation, elle est à 60%. Moi, je comprends pas. Mais c'est pour ça que je me dis, pourquoi on a été faire des méga bassines qui sont
hyper conflictuelles,
alors qu'en fin de compte, on avait qu'à mettre, qu'on refermait les châteaux d'eau. Il y en a partout.
Et ben, parce que c'est les lois de la physique. C'est que dans une bassine où il y a 3 millions de mètres cubes d'eau,
Didier, allez-y.
En soi, pour irriguer des cultures céréalières, je vais être franc, on s'en fout, on s'en contrefout. Quand vous allez vous baigner à la plage, vous allez vous baigner dans des rivières, dans des bassins, dans des lacs, il y a de la bactériaux, ça gêne personne. Moi, dans mon cas, par exemple, quand je fais de l'irrigation sur des cultures de jeunes pousses ou de mâches, là, par contre, mon eau d'irrigation est analysée. Et on doit mettre en place des procédés pour justement qu'il n'y ait pas de problème de bactériaux sur l'alimentation. Mais pour irriguer du maïs, c'est pas grave. Les bactéries sont dégradées par les UV, donc ça n'a pas d'impact. C'est des produits qui sont soit qui servent à alimenter du bétail, soit qui sont après transformés pour l'alimentation humaine. Donc en fait, les problèmes de bactériaux, c'est pas très grave. Ensuite, l'intérêt. Pourquoi créer des retenues qu'on va remplir en hiver quand l'eau effectivement est plus abondante. Vous pouvez aller voir dans le Marais Poitevin ce qui s'est fait, le retour d'expérience. Donc il y a quand même il doit y avoir une vingtaine de retenues dans le sud Vendée.
Mais c'est critiqué d'ailleurs.
Le niveau des nappes phréatiques Vendée en été a augmenté de plus d'un mètre.
Oui.
Parce que justement, comme l'irrigation, on a fait moi j'irrigue quasiment pas l'hiver, on n'a pas besoin d'irriguer l'hiver. Mmh. On a besoin d'irriguer au printemps, à l'été et un peu à l'automne. Les régimes de précipitation changent.
D'accord.
Le climat change, mais nous, le climat, et la terre, ce sont des outils de travail pour nous. Ouais. C'est notre quotidien. Le climat, c'est pas d'hier
J'entends, mais quand vous prenez le Marais Poitevin, vous prenez une région qui est très humide. Mais le problème de ces bassines-là, c'est que vous risquez à risque d'être faite, et c'est ce qui est de l'avenir va le faire. Elle sera faite dans des régions où il y a très peu d'eau, donc ils vont pomper les nappes phréatiques et donc l'eau va devenir à manquer. Et hier, Macron, il a quand même dit un truc dans son discours,
c'est que
l'eau allait augmenter. Non, mais pas forcément. Là, l'histoire. Non, mais attendez, ça c'est toujours le truc vertueux du départ. On sait comment ça se finit, malheureusement. Et Macron, hier, il a quand même dit que l'eau allait augmenter. Donc c'est toujours sous couvert d'intérêt écologique.
Indéniable.
Bam, bam,
c'est indéniable. Quand tu passes d'un régime d'abondance à un régime de restriction, ça augmente. Pour te répondre sur la taille des bassines, parce qu'aujourd'hui c'est une loi de la physique. Une bassine de 3 millions de mètres cubes, ça s'évapore moins que dans 10 bassines de 300 000 mètres cubes.
Tu fais pas des châteaux
d'eau ? C'est des lois de la physique.
Châteaux d'eau, c'est
quand même mieux. Après, recouvrir les bassines, c'est une solution.
Ah bon, on va continuer d'en discuter dans un instant. Je remercie Valentin de ses précisions. Valentin Maraîcher du Colleté de la Loire-Atlantique. Bonne journée Valentin, merci d'avoir été avec nous. On continue de discuter de ces bassines, méga bassines. On va voir ce que nos GG continuent d'en penser. Sarah Salman, Bruno Poncet, Didier Giraud et vous au 32-16.
RMC,
9h midi,
les Grandes Gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, Sarah Salman, avocate qui est avec nous. On parle de ce scandale, cette polémique autour de ces retenues collinaires, comme le dit Didier Giraud, notre ami agriculteur, ou ce que les écologistes, les opposants appellent les méga-bassines, le symbole du désastre écologique et du gaspillage de l'eau, selon eux. C'est ce qu'ils disent, il faut laisser l'eau entrer dans les sols, ensuite suivre son cheminement naturel et profiter à la terre et à tout ce qui est la biologie souterraine, plutôt que d'essayer ensuite de la pomper, tout ça au profit d'une agriculture intensive et qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être dans notre pays, Sarah.
Je suis pas une grande professionnelle de l'écologie, je pense que tout le monde le sait ici. D'ailleurs, je voulais faire mon bilan avec vous parce que ça fait un an que je suis là, donc je voulais voir si les choses avaient évolué sur mes bains, puisque hier ça a été un sujet. Donc oui, je prends toujours 2 bains par jour et je continuerai. Donc ça, c'était vraiment pour introduire le propos à titre liminaire.
Ça t'a pas fait réfléchir en te disant peut-être que je pourrais réduire, n'en prendre qu'un par jour.
J'ai rajouté de la mousse.
En même temps, quand tu prends 2 bains, vu la taille que tu as, ma chère, et donc la taille que doit avoir ta baignoire. Mais t'es toute petite, t'es toute menue.
Et qu'est-ce que ça change?
Ça fait comme, t'as pour faire 20 bains quand Bruno et moi on en prend un seul.
Ah
quoi.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il nous faut pas la même baignoire que toi, quoi.
Ah, non. Les baignoires n'est pas adaptées sur mesure à ma personne.
Ah, c'est dommage,
c'est,
alors.
Mais plus sérieusement, la réaction des écolos radicaux m'a fait réfléchir. Mais en fait, avant, je m'en foutais de l'écologie. Oui. Maintenant, ça me rebute complètement.
C'est ça, c'est
parce qu'ils ont,
ça devient les un étendard.
Les écolos radicaux, je pense, sont dans une idéologie déconstructrice où c'est même pas, ils sont pour ou contre, c'est par principe, ils sont contre tout. Donc là, les méga-bassines, moi, j'ai pas les compétences nécessaires pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Je vais être complètement honnête. Mais les écolos radicaux, quand ils se déplacent à Sainte-Soline, ils viennent pour détruire, pour casser, ils viennent de pays étrangers et je ne pense pas qu'ils viennent pour les bonnes raisons. Voilà.
Puis quand tu regardes les images, enfin, je pense qu'il n'y a pas que des écolos.
Et quand je vois, non,
il n'y a pas que des écolos, il y a des gens qui viennent faire la guerre.
Et quand je vois certains députés comme Clémence Guettet qui était sur place, qui dit que ça s'est très bien passé, etc., je trouve que c'est aussi une récupération politique.
Moi, je sais pas non plus s'il faut faire oui ou non des méga-bassines. Mais sincèrement, c'est assez insupportable ce qui s'est passé cette semaine avant Sainte-Soline et après Sainte-Soline. Oui. Dans quasiment tous les médias et notamment ceux du service public, on a donné la parole qu'à des anti-bassines. Voilà. C'est-à-dire qu'à des écologistes. Alors c'est intéressant d'entendre un argument, on entendait toujours les mêmes arguments. Oui. Qu'à des chercheurs en sociologie, machin. Mais j'ai pas entendu beaucoup, comme on vient de le faire tout à l'heure, des agriculteurs comme toi Didier ou comme celui qui est avec nous, le maraîcher de Loire-Atlantique.
On a besoin d'eau.
Très intéressant et qui sont les premiers quand même concernés puisque ce sont eux qui ont besoin d'eau, alors que ceux qui viennent de Paris pour manifester contre les méga-bassines, ça les concerne quand même assez indirectement.
Le robinet coule tout le temps.
Donc je trouve que là, non, mais ça pose un problème de la désinformation. En tout cas, d'une information
de la
commerciale.
Ça serait bien qu'on
fasse comme ici à RMC dans les grandes gueules, qu'on entende un agriculteur, qu'on entende un écologiste, qu'on entende les pour.
Justement, quand je dis c'est pas si tranché que ça, dans les scientifiques, il y a des gens qui sont
bien sûr,
dans
les médias.
Et entre autres, les gens qui ont fait les études pour le lieu d'implantation de la bassine, il y a des gens qui ont fait des vraies études et qui sont des hydrographes confirmés, qui sont pour, et puis t'en as d'autres qui sont contre. Et ce débat-là, on l'a pas souvent quand même.
Il faudrait notamment sur le service public, parce que ça c'est notre impôt, hein, après
le prix c'est notre argent,
mais sur les chaînes du service public,
ils ont mis que des députés LFI qui étaient contre.
Il y a un parti pris anti-bassine qui est hallucinant.
Là-bas, t'as un contexte local qui est 100% pour. Hein.
Je rappelle d'ailleurs que la région socialiste et le département de droite sont pour. Hein.
Alors nous allons continuer d'en débattre justement avec un autre point de vue, celui de Fabien qui nous appelle de Haute-Marne, qui est technicien environnemental. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Alors selon vous, c'est une catastrophe. Expliquez-nous pourquoi.
Sans parler de catastrophe, pour moi, c'est surtout quelque chose qui n'est pas raisonnable. Moi, j'ai un point de vue, j'ai quelques arguments par rapport au fait que là, quand j'entends que, par exemple, on va pomper le trop-plein dans une nappe, et en fait, dans une nappe, il n'y a pas de trop-plein. Ce qu'elle peut stocker, elle peut le stocker. Après, elle le rend de manière modérée pour alimenter des cours d'eau, pour alimenter des ruisseaux, pour faire vivre un écosystème. On peut toujours se dire qu'à la rigueur, effectivement, on coupe les cours d'eau, on pompe tout.
On fait bien les barrages.
Comment ?
On fait bien des barrages. Vous êtes contre les barrages hydrauliques?
On parle d'eau superficielle dans le cas des barrages. C'est pas la même chose. Mmh. Une nappe phréatique, c'est de l'eau infiltrée, c'est une réserve, c'est une poche.
Non, c'est pas une réserve, c'est de l'eau qui va à la mer.
Et pas dans une nappe.
Vous parliez de l'eau des rivières.
Non, c'est toi qui en parle avec les barrages hydrauliques.
Non, je vous ai dit qu'une nappe, le trop plein d'une nappe alimente des rivières.
Des rivières, oui.
Oui, mais donc ça part dans les rivières.
On fait que de pomper le trop-plein. Donc effectivement, on arrête d'alimenter des rivières, globalement.
C'est ça. Ça peut être le risque.
Oui, on en a besoin.
Ce que vous nous dites là, Fabien, c'est dans l'absolu, c'est vrai. Sauf qu'il faut voir le différentiel qu'il y a entre l'eau qui tombe et celle qui est pompée, quoi. Pomper dans une nappe qui correspond à un territoire, que Fabien
explique. Allez-y.
Non, mais moi, je pense que en fait, aller pomper de l'eau qui s'est stockée, qui est protégée des aléas du climat, qui est protégée de la météorologie ou de je sais pas quoi, c'est un problème. Parce que c'est de l'eau potable, d'autant plus. Par contre, effectivement, créer des bassines qui seraient plutôt des bassines écréteurs de crues, comme des réserves collinaires, comme on a pu entendre juste avant, et qui permettraient de protéger notamment les communes, les zones inondables et tout ça, en récupérant les eaux, l'excédent d'eau de surface, pour le restituer à plus ou moins long terme, notamment en période estivale, pendant les périodes d'étiage. Certes, là, on est sur une gestion qui serait plutôt intelligente. Globalement, aller pomper de l'eau, la mettre dans des bassines. Moi, je fais de la mesure, je travaille en assainissement, je fais de la mesure débit métrique sur des lagunages, par exemple, qui sont des systèmes de traitement d'eau usée. Sur une journée, on est capable de perdre 50% du débit entre l'entrée et la sortie de cette station, c'est trois bassins qui sont pareils sur le même type. C'est de la géomembrane, donc de la bâche noire. Ça va être en plein vent, au soleil. Donc, il y a un phénomène d'évapotranspiration qui représente plusieurs centimètres par jour. Et c'est même pas une question de soleil, d'ailleurs, hein, parce qu'il suffit qu'il y ait du vent, qu'il y ait des choses comme ça.
Oui, bien sûr.
Pour perdre tout ça. Donc là, on va dire qu'on va pomper du trop plein qui alimente des rivières pour le mettre dans des bassines qui vont être qui vont subir toutes les aléas climatiques. Qui va donc, on va perdre énormément de ce qu'on a pompé pour le restituer en étiage. Donc on va créer des pertes dans les nappes, on va créer des pertes dans ces bassines, parce que de toute façon on va pas pouvoir les maintenir au niveau où on les a, où on avait pompé au début. Et après on continue de pomper en été, parce qu'en fait ça veut même pas dire qu'on va pas pomper en été pendant dans les nappes, ça veut dire qu'on pompe juste moins.
Donc en fait, mais c'est l'hiver.
Non mais Fabien là, vous êtes en train de nous expliquer quelque chose qui est qu'un volet du problème du stockage de l'eau, quoi. Hein. Le système que vous décrivez, il existe, certes, mais c'est qu'un volet du système de stockage de l'eau, où on pompe directement dans une nappe. Enfin, vous êtes dans une région, la Marne, où les gens, toute la Beauce en France, ils plantent un tuyau en terre et ils pompent directement dans la nappe pour arroser directement, sans stockage dans le milieu, quoi. Hein. Y a aussi le stockage des eaux de surface, quoi. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez décrire qu'un seul système et dire qu'il est unique, quoi.
Oui, mais un des arguments, parce que Fabien... Un des arguments aussi pour l'agriculture locale, c'est de dire il y a qu'à réduire les parcelles aussi. On réduit les parcelles. On change de modèle agricole et on passe à autre chose. On a moins besoin d'arroser.
En gros, tu veux dire qu'il faut arroser moins.
Il faut moins produire.
Donc, c'est l'argument qu'on entend. C'est de changer de modèle.
Donc, quand t'as un maraîcher qui te dit, on importe 50% des légumes qu'on consomme, tu verses ta larme, et puis après, tu nous dis, faut produire moins. Le choix de société, tu l'as fait.
On à la fois défendre la souveraineté alimentaire et nous expliquer qu'il faut produire moins.
Ce que t'importes, il n'y a pas d'écolos cagoulés qui
sont à la sauce. C'est au-delà de l'importation. Mais c'est au-delà de l'importation. Le modèle qu'il prône, c'est celui de la décroissance.
Oui, voilà.
C'est-à-dire aujourd'hui, on consomme de moins en moins, de moins manger, de moins consommer.
Il n'y a pas de surconsommation de légumes en France.
Il y a un vrai débat. Parce que tout est lié. Tout est lié. Il y a un vrai débat sur le gaspillage alimentaire.
Oui, mais c'est pas sur les légumes.
Non, mais c'est pas ça qu'on parle.
Résolvons le gaspillage alimentaire. On aura moins besoin d'eau.
Didier, il est d'accord avec ça. La cible, c'est les céréaliers qui ont 700 hectares. Et qui les mecs pompent à tarbas tout le temps.
Sachant que ce blé-là,
mon gars, tu le mangeras jamais parce qu'il est vendu ailleurs et que nous, on va importer du blé ukrainien ou d'ailleurs. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit logique.
Sincèrement,
produisons
Bruno,
ce qu'on mange et après, on verra.
La seule réalité, c'est que le nombre d'agriculteurs ne cesse de baisser chaque année. Ouais. Et que moi, je pense qu'on va faire avec l'agriculture ce qu'on a fait avec notre industrie. Avec l'idée des croissances.
On va aller acheter ailleurs.
On a fait la même chose pour l'industrie. Ah ben non, faut moins produire. L'industrie, c'est polluant, etc. Petit fait que finalement, on ne produit plus rien en France.
Alors,
on achète à l'autre bout du monde.
C'est déjà fait parce que rien d'aujourd'hui.
Le pays s'appauvrit. On le voit bien.
J'ai quelques contacts avec des paysans de Hongrie, de République tchèque. Je peux te dire que ces gens-là, ils en ont rien à foutre de tout ce cirque-là.
Ils se marrent.
Je peux dire que les black blocs qui vont défendre la machine, ils sont écrabouillés comme une punaise. Hein. Et d'ailleurs, ils y vont pas. Et que ces gens-là, ils stockent de l'eau, ils produisent, ils nous envoient du blé ou toute autre chose de façon compétitive en termes de tarifs. Et ces gens-là, ils disent ah mais si vous voulez arrêter de produire, c'est pas grave, nous on va produire pour vous.
Ils
n'ont aucune contrainte sur les pesticides, ils n'ont aucune contrainte sur l'eau.
Sur des produits, on ne l'est plus.
Bonjour Johan.
Oui, bonjour.
Agriculteur en Charente, justement. Alors, vous avez besoin de ces retenues d'eau ?
Tout à fait. Et bon, j'ai entendu ce qu'a dit Fabien, je crois, l'intervenant. Bon, peut-être que ce qu'il a dit est vrai dans son secteur, mais Charente de Sèvres, ce qu'il a dit est totalement faux concernant les réserves. Les réserves. Alors, quand on parle de nappe phréatique, une nappe phréatique, on met tout dedans. Sainte-Soline et une partie du Poitou-Charentes. Les remplissages des réserves se fait par des nappes dites libres, c'est-à-dire des nappes superficielles, et l'eau s'écoule quand elle commence à déborder. Et le remplissage de ces réserves-là est fait que quand le débit le permet et quand le niveau de la nappe est en excès. Alors, il n'y a aucun remplissage de ces réserves-là l'été. C'est parce que contrairement à ce qu'il a dit tout à l'heure, hein, oui. Les agriculteurs s'en servent au printemps ou à l'été et pompent dedans, mais s'en remplissent l'hiver si le niveau de la nappe est supérieur au seuil de référence et si on le peut. Si dans notre secteur l'irrigation s'est développée il y a 30 ou 40 ans, il y a une raison. On est sur des sols superficiels, des zones dites intermédiaires, des sols très pauvres. Malheureusement, sans eau, on ne produit rien. Et ça sera encore plus vrai demain. Et ça me gêne. Alors,
et d'ailleurs, les bassines, elles sont pas pleines aujourd'hui parce que la pluviométrie de cet hiver a pas été suffisante.
C'est donc bien la démonstration qu'on prend le surplus.
Merci Johan d'avoir été avec nous. On va regarder ce que vous en pensez. Mais il y a bassine. Est-ce que c'est un désastre écologique, oui ou non? Allez, quel est votre sentiment par rapport à ce débat? C'est très partagé. Hein. Non, c'est pas un désastre écologique, c'est 51%, 51-48%, donc ça reste très serré. Le débat reste ouvert, comme disait l'autre. Dans un instant, les indiscrets GG à Matignon, on veut consulter, mais une partie de la gauche, j'avais vu, dit non. Le Parti communiste n'ira pas notamment à la rencontre la semaine prochaine avec Madame Borne. Et puis on aura le quiz des GG.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Sarah Salman, Didier Giraud, Bruno Poncé. Et on y va pour les indiscrets GG.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
Avec Hélène Terzian du service politique d'RMC. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous.
Alors du côté de Matignon, on voulait apaiser la colère en invitant les oppositions la semaine prochaine. C'est mal parti parce qu'il y a déjà du boycott à gauche.
Tout s'est accéléré hier. La rumeur, elle enflait depuis quelques jours hein, avec dans nos échanges entre la presse et les élus. Ça n'a pas manqué. Les communistes puis les insoumis ont dit non, nous n'irons pas discuter avec Elisabeth Borne. La faute au traitement subi par les parlementaires, m'explique un député PC qui égrène le 49-3, le vote bloqué au Sénat. Un insoumis estime, lui, que LFI aura bien mieux à faire sur un point de blocage, hein, plutôt que de discuter ou de ne pas rediscuter, en l'occurrence, de la question de l'âge de départ à la retraite. Côté PS et Europe Écologie Les Verts, rien n'est tranché, mais la tentation est la même, celle de faire, de jouer à la politique de la chaise vide. Les chefs de groupe parlementaires socialistes sont déjà allés 3 fois boire un café à Matignon pour parler de la réforme des retraites, au final pour ne rien obtenir. Alors, franchement, pas sûr qu'ils remettent ça. Quant aux écologistes, une députée influente refuse, je cite, de participer à la mise en scène gouvernementale.
Et cette députée influente.
Une députée influente, tu peux pas vous le dire.
On dit pas. Donne pas ses sources et puis les noms.
À toi de deviner.
Du coup, du côté de Matignon, c'est non. Mais pour l'Élysée, c'est oui.
Eh oui, alors partant du constat que la première ministre n'a plus la main, ça c'est ce que me dit un communiste, les communistes, justement, ils ont lancé l'initiative d'un cortège républicain. Il s'élancera mardi matin depuis l'Assemblée nationale pour rejoindre l'Élysée. L'idée, c'est de réunir les 252 parlementaires qui souhaitent, vous savez, le RIP, le référendum d'initiative partagée. L'idée, c'est d'aller toquer à la porte du président pour lui remettre un courrier, pour lui faire un appel solennel, pour lui demander le retrait de la réforme. LFI sera là, PS et Écolo y pensent sérieusement. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que les députés de Lyotte, vous savez, ce groupe de députés à l'origine de la motion de Charles de Courson à l'origine de la motion de censure qui a failli faire tomber le gouvernement, ils devraient marcher eux aussi vers l'Élysée.
Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que les parlementaires, ils en ont ras-le-bol de toujours d'être toujours les premiers à faire une proposition ou un premier pas.
En amour, il faut faire des compromis, n'est-ce pas? Pour trouver une majorité, ce que souhaite le gouvernement, c'est pareil. Les oppositions ont le sentiment que ça ne va que dans un sens, qu'ils sont les seuls à devoir faire des efforts. Et ça, c'est particulièrement ressenti du côté des écologistes. La semaine prochaine, c'est leur niche parlementaire. Ils vont porter leur texte qu'ils ont choisi eux-mêmes dans l'hémicycle. Ils sont très remontés contre Renaissance, m'explique l'un d'eux, puisque le groupe macroniste, je cite, a torpillé tous les textes écolos en commission, même les plus consensuels, en fait en les vidant de leur substance ou alors en faisant voter des amendements de suppression. Cet élu écologiste, il fait donc ce constat, il n'y a aucune nouvelle méthode et aucune recherche de compromis. Un autre petit exemple très symptomatique, il y a un groupe de travail transpartisan qui a été monté sur les déserts médicaux, clé en main, LR, NUPES et majorité ont proposé ce texte à Yaël Braun-Pivet notamment, bref, à des députés de la majorité, et on lui a dit, eh bien, il n'y a pas de place dans le calendrier législatif, façon de dire, en fait, on n'en veut pas. Voilà, on a pris le gouvernement au mot, et en réalité, ils n'y sont pas prêts. Voilà ce que nous dit ce député qui pilote ce groupe transpartisan. Voilà, forcément, tout ça, ça ne pousse pas les oppositions à aller à Matignon, ils y vont en reculant.
Mais j'ai toujours pas compris pourquoi Madame Borne voulait les voir, parce que quel est l'ordre du jour? Parce que là, on est entre deux, on attend la décision du Conseil constitutionnel. La réforme a été adoptée.
Ça sert à rien.
Ouais, c'est ça. Moi, je pense
leur
que c'est de la com.
Comment ils auraient voté s'il y avait eu un vote.
Oui, sincèrement, je ne comprends pas l'intérêt.
Ça sert à rien.
Je comprends pas l'intérêt.
Ils veulent essayer déjà de jouer le coup d'après alors que la partie en cours n'est pas terminée.
Quoi. Oh, elle est quasiment terminée.
C'est Marine Le Pen d'ailleurs qui a dit sur Twitter. Marine Le Pen, elle compte aller voir Madame Borne. Par contre, elle a dit sur Twitter que ça aurait été bien quand même d'attendre l'avis du Conseil constitutionnel.
Elle ne va pas y aller, Marine Le Pen. À force de se dédiaboliser, elle devient finalement comme les autres.
Elle montre qu'elle est une républicaine. Quand on invite à Matignon, elle respecte les institutions.
Oui, mais ils ont raison à la gauche. À chaque fois qu'ils ont été là, c'était pour boire le café et pour constater qu'ils étaient en désaccord. Enfin, sincèrement, on est dans du cinéma. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Bruno.
Non, mais c'est exactement ça. En plus, moi, j'arrive pas à comprendre. Enfin, ils les bloquent pendant le débat, qui est logiquement le débat républicain. Derrière, elle les invite, mais si elle fait comme elle a dit au syndicat, vous venez, mais on parle pas de la retraite, on parle d'autre chose. Non, mais à un moment donné, c'est pas sérieux. Mais, enfin, et en plus, tu vois, ils ont raison. Après, moi, je pense pas que Macron, ça change les choses, mais à un moment donné, Madame Borne, c'est fini. On oublie, tu coupes et tu passes au-dessus. Et si au-dessus, t'écoutes pas, de toute façon, il reste la rue, hein. C'est la rue qui va décider.
Oui, bon.
Faut aller voir Madame Borne, prendre un petit café à Matignon.
Ce qui me semble, dans tout ce que nous a dit Hélène, ce qui me semble le plus grave en termes de fonctionnement de la démocratie et de la Ve République, c'est le fait qu'on fasse travailler un groupe parlementaire interinstitutionnel, là,
transpartisan, sur un
sujet hyper important, qu'est les déserts médicaux, enfin, entre autres en milieu rural, et que derrière ça, on leur dise, ouais, mais on vous a fait ronger l'os, là, mais on n'a pas le temps de traiter le sujet, quoi. Ça me paraît encore bien plus grave. Parce que, en gros, on les occupe pour qu'ils ne fassent pas chier les députés. Quoi, hein. Les députés qui ne sont pas à Renaissance, on les occupe pour qu'ils ne fassent pas chier. Raide, quoi, hein.
Beaucoup se demandent
à quoi ils servent. C'est exactement ça. Parce que quand ils ont quelque chose à dire, on dit bah, venez boire le café, mais. Derrière le 49-3, quand le coup il est passé, ça sert à quoi de les réinviter.
Ça sert à rien,
moi,
on est d'accord là-dessus.
Que, voilà.
Ça sert à rien. C'est de tendre la main.
Bruno,
si t'as envie d'avoir un café gratuit à Matignon aussi, sinon non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Didier a entièrement raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des, enfin aujourd'hui, mais on le dit depuis longtemps. Au-delà de la réforme des retraites, t'avais quand même problème de pouvoir d'achat. Les déserts médicaux, c'en est un. T'as beaucoup de l'hôpital français souffre depuis des décennies. Et là, il y a des choses à faire. Et des sujets comme ça, si t'es même pas capable d'écouter les gens, c'est qu'à un moment donné, tu représentes personne. Eux, ils représentent plus qu'eux. Je pense que ça fait un bout de temps que tout le monde s'en est rendu compte. Hein.
Je pense qu'elle est arrivée en bout de course. Hein. Je pense que.
Ouais, mais les autres sont pareils. Elle essaye. Hélène, c'est aussi une façon pour elle de dire regardez, j'existe exactement. Encore, je ne suis pas morte politiquement.
Exactement, en consultant les syndicats et les forces
politiques. Mais les syndicats, Hélène, je ne suis pas sûr que.
Ils vont pas y aller.
Ouais. On verra si y en a qui vont y aller.
On va savoir si la nouvelle patronne.
Si Binet ira.
Il va ou pas, elle doit se prononcer.
Ils ont quand même dit, beaucoup ont dit qu'il faudrait quand même y aller, même pas forcément la ligne Binet ou même la ligne Matteux. Il y en a certains qui disent écoutez, on a invité, il faut quand même qu'on y aille. Mais eux, ils veulent tous. Mais aujourd'hui, c'est d'aller voir Macron, ils s'en foutent de Borne. Le sujet, il est surtout là. Hein.
Merci Hélène Terzian, merci ma chère. Avant de passer au quiz des GG, j'ai oublié de vous donner le à vous de choisir là dans un quart d'heure. De quoi voulez-vous que l'on parle justement d'Elisabeth Borne fragilisée et surtout qui pourrait aller à Matignon? C'est la question qui est posée. Quelle personnalité aujourd'hui pourrait y aller? Ou est-ce que vous voulez que l'on parle de la fin de la vraie pause déjeuner au travail? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez ce que font les salariés, une bonne partie des salariés, en fait, ils amènent leur casse-croûte au travail et ils déjeunent face à leur écran ou entre collègues. C'est et donc le traditionnel déjeuner à la française avec au bistrot ou dans la cantine à côté,
ça coûte trop cher.
C'est fini, ça coûte trop cher. Du coup, est-ce que c'est vraiment une question de pouvoir d'achat aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose. Et puis dans les restaurants, on dit vous voulez la mort des bistrots? Continuez comme ça. Et puis autour sur les pâtés de maison, vous n'aurez plus une cantine, vous n'aurez plus un petit restaurant. Ce sera fini. Chacun prendra sa nourriture qu'il aura achetée au supermarché et mangera devant son écran. Vous avez raison, c'est beaucoup mieux. Donc on en parlera tout à l'heure, si vous le souhaitez, à 11h. Ce sera peut-être l'un des à vous de choisir. Donc on y va pour le quiz des GG.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Quiz des GG avec Louis Gerbier. Bonjour Louis.
Salut Alain, salut à tous.
Sony et maintenant Croquette. Tu la boucles parce qu'il n'y a pas de quiz.
Ah.
Il n'y a pas de quiz.
Sony
Depuis
Croquette.
Le temps qu'on voulait faire le match Châteauroux-Vierzon,
Oh.
Et oui, on a le quiz préparé par Anaïs Sainz, Châteauroux, Vierzon. Bruno Poncet de Vierzon. Mais non, t'as pas.
Les amis.
Louis Gerbier de Châteauroux va voir. Attends, on va. Didier, tu tiens les points.
Alors moi, je peux représenter notre région ou
non, non, bah non, c'est un quiz Châteauroux-Vierzon. On va voir lequel des deux connaît le mieux sa ville. Alors attention.
Donc, c'est le Cher contre.
Et pour aller nous rappeler quand même Vierzon, c'est Bruno Poncet,
ce que j'ai dit, et Louis Gerbier. Alors, quel ancien joueur international a été formé à la Berrichonne de Châteauroux? Florent Malouda, bien joué.
Fais gaffe qu'il regarde pas les réponses.
Bonne réponse.
T'en as d'autres, hein.
C'était pas la question, Bruno.
Florent Malouda, qui est passé aussi par Lyon et Chelsea. Alors maintenant, dans quelle division évolue? Attendez, là, je vous pose la question de manière individuelle. Les clubs de foot, Châteauroux, dans quelle division il évolue?
Ben, national, malheureusement.
Et combien au classement?
Oh là là, on doit être 15e en ce moment.
10e, et bonne partie de la bonne réponse. Vierzon?
National 2 et on est dernier.
C'est vrai. Alors c'est une bonne réponse.
Ça sent la montée.
C'est bonne réponse.
La réponse, c'est les meilleurs chez Bruno.
Non,
mais le problème, c'est surtout, c'est qu'on était loin en Coupe de France.
Lequel des deux clubs a passé 10 ans en première division?
Châteauroux,
bonne réponse.
97, la dernière année.
Mais il fallait dégainer.
Vous savez aussi que Châteauroux, c'est le club qui a passé plus de temps en Ligue 2.
Alors attention, à part Louis Gerbier, qui est le plus grand supporter de Châteauroux? Michel Denisot. Bonne réponse de Louis Gerbier.
On l'embrasse.
Apparemment. Alors attendez, vous connaissez toute cette chanson de Brel.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon.
Voilà. Alors attends.
T'as voulu voir Vesoul.
En quelle année est-elle sortie, la chanson?
58, je crois.
Non.
58 et 63, c'est qui le plus
près? Non, il n'y en a aucun des deux. C'est 68.
C'est
Poncet. Alors, vous savez, les Vierzonais sont tellement contents qu'ils ont rebaptisé une de leurs places, la place Jacques Brel. Vrai ou faux?
C'est vrai.
Vrai, bonne réponse. De Bruno Poncet. Pourtant, les Vierzonais étaient convaincus pendant longtemps que Brel, en fait, se moquait d'eux dans la chanson.
Ça, c'est vrai.
Quel est le quotidien local de vos deux villes, Châteauroux?
La NR, la Nouvelle République.
Bonne réponse.
Le Berry Républicain, je l'ai lu tous les jours.
Bonne réponse.
Encore,
effectivement.
Ah, c'est drôle.
On salue la NR, t'es le mec.
Alors,
qui salue
petit point, c'est pas mal, hein, ils connaissent bien leur ville.
Ils connaissent bien. Bon, après, c'est normal, tu connais quand même le quotidien.
Moi, j'y suis né, j'y suis resté longtemps.
Petit point histoire pour Châteauroux. Châteauroux doit son nom à son fondateur. Quel était son nom?
Château Raoul. Raoul.
C'est vrai. Ouais. C'est ça. Ah. C'était Bravo. Raoul le Large, seigneur chevalier du Xe siècle, qui fonda le château Raoul. Bruno, quelle est la devise de Vierzon?
Oh merde, putain, j'ai zappé là. Désolé. Ni Dieu ni maître, je crois. Je sais plus du tout.
Il y en a une.
C'est Aliunde Pauka Requirens, qui signifie ne demande guère à autrui. Voilà.
Ouais. Le compte pour un tout seul.
Le compte pour un fief communiste.
Hein. Mais c'est une ville, surtout nous, c'est une ville gauloise. Enfin, alors, c'est une vieille ville. Ouais.
Question histoire encore. Dans laquelle des deux villes passe la ligne de démarcation entre la zone libre et le régime de Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale? Effectivement, Vierzon, qui était rattaché à la zone occupée.
J'ai une anecdote là-dessus, j'ai mon meilleur ami qui, lui, vivait, pas à l'époque, mais lui, son quartier, c'est la Genette. C'est le quartier de. Enfin, c'était en zone libre. Et moi, le Bois d'Ièvre, c'était en zone occupée. Et moi, je suis de gauche, je suis de droite. Donc, il me traite de nazi depuis quelques mois, là, maintenant. Ouais. Depuis qu'on avait vu ça, il me dit, toi, t'es en zone occupée.
Et on précise que Châteauroux était en zone libre intégralement.
Intégralement.
Le département.
Mais ça empêche pas qu'il y ait beaucoup de
questions. Louis. Châteauroux a été renommé pendant la Révolution française. Quel était son nom? Roue libre, Château GPT ou Indre libre?
Château GPT.
Anaïs, bon. Château GPT, t'as pas le droit. Alors, redis-moi ce que.
Roue libre, Indre libre ou Château GPT?
Bah, je sais pas, je dirais Indre libre, mais.
Effectivement, bonne réponse. Pendant la Révolution française, c'était Indre libre. Laquelle des deux villes était saturée de bouchons l'été pendant les 30 glorieuses?
Châteauroux. Vierzon, parce que nous, on est un carrefour, on est un vrai carrefour en Vierzon.
C'est vrai, c'est Vierzon, parce que Vierzon est un carrefour avant l'autoroute sur la route nationale 20 et la route nationale 76. Ouais. Et en fait, toute la France, durant les 30 glorieuses, passait par Vierzon pour repartir sur son lieu de vacances.
C'était un nœud ferroviaire aussi. Voilà.
Alors, et depuis laquelle des deux villes peut-on aller? En Sardaigne, en Jordanie ou au Portugal?
C'est Châteauroux.
Marcel Dassault.
C'est Châteauroux, c'est l'aéroport de Châteauroux. Au centre,
Châteauroux, Centre Marcel Dassault, l'escale juste en face, un petit exactement. Tartare, et puis tout le monde est heureux.
Il en faut une autre, hein. Voilà. Égalité parfaite.
Ah, égalité.
Et voilà. On ne peut pas départager.
On se serre la main et puis c'est tout.
C'est sûr.
Vive le Berry. C'est la conclusion.
Le petit match était concocté par Anaïs.
Merci Anaïs.
Bravo.
Moi, j'ai pas de mérite.
La seule émission en France
à faire sur deux matchs.
Le match Châteauroux-Vierzon.
Les deux plus belles villes de France, et puis c'est tout.
Allez, on te laisse quand même une question. Allez, vas-y. Allez. La question, le QQGG peut-être à ce
moment-là. Le QQGG, ouais. Oui. Alors, QQGG de Jérôme V de Rambouillet qui nous avait déjà posé une question. Quelle est l'émission TV la plus ancienne encore à l'antenne?
Les chiffres et lettres.
Et non, c'est le
jour
deuxième.
Du Seigneur.
Mais non,
c'est
le jour du Seigneur. Raison, ouais.
Ah, mais toi, tu l'homme pieux, l'homme pieux.
Tu devrais regarder, Bruno, ça te ferait du bien.
Ouais. Oui, c'est vrai.
1949, diffusé tous les dimanches sur RTF Télévision, puis TF1, puis Antenne 2, puis France 2. Tu regardes toi Bruno, hein?
Bah oui, oui. Moi je suis
pas. Juste avant téléfoot, tu fais le jour des seigneurs.
T'es communiste toi.
Ah, je suis baptisé.
Merci. Et on salue Monsieur Gatineau qu'on a croisé au resto il y a deux jours.
Effectivement. Attends, bouge pas.
C'est Marissé.
Sylvain Gatineau qui nous a salué, qui vient de Rungis.
On est allé déjeuner Bruno Poncé, Louis Gerbier et moi. On est allé déjeuner juste à côté au café PC. On est tombé sur Sylvain Gatineau.
Quand ça devient trop personnel,
qui a une société à Rungis qui s'appelle les Primeurs, et il nous dit le matin à Rungis, tout le monde est sur les GG.
Bah oui, donc
c'est l'occasion de saluer Rungis.
C'est la radio de ceux qui travaillent tôt.
Exactement.
Saluer Rungis.
Ceux qui travaillent déjà.
Oui. Et l'ami Sylvain qui aimerait déjà. Bien, d'ailleurs, il nous a dit, ce serait bien que les GG viennent à faire Rungis. Une émission à Rungis. Ouais. Ouais. Ouais.
C'est génial. Vous avez déjà vu Rungis?
Bah oui, moi j'étais plus d'une fois pour le boulot.
C'est génial. Visiter Rungis, c'est incroyable.
Ça serait pas mal qu'on mette ça en place, les GG.
Juste avant les fêtes de Noël.
En plus, on y mange bien.
Ah bah oui.
Allez, dans un instant, le à vous de choisir. Ça tombe bien qu'on parle de Rungis, puisque vous voulez qu'on parle ensemble de la fin de la pause déj, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on amène son casse-croûte au travail, on mange devant son ordinateur? Pourquoi est-ce qu'on privilégie plus les petits bistrots de quartier? Est-ce que c'est la faute à l'inflation ou c'est la faute aux réseaux sociaux? On préfère casse-croûter en regardant une série devant son ordinateur. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.